que avere shooting desire.
Dico da Radio France Internationale,
non ti sei così dei.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde pour les temps forts de l'actualité de la semaine avec les rédactions de RFI, un regard différent qui fait la richesse de votre radio. Ce soir, pour la rédaction russe, Anya Stroganova.
Dobrый вечер.
Miguel Martins de la rédaction lusophone.
Bonne nuit.
Et Raphaël Moran pour la rédaction en espagnol.
Buenas noches, Philippe.
Bonsoir à vous tous. Alors, on l'apprenait tout à l'heure, le tronçon central de la ligne C du RER dans Paris restera fermé jusqu'au samedi 10 février, au moins en raison de la crue de la Seine. Le train circule le long de la Seine, donc sous le niveau du fleuve, dans la traversée de la capitale. Autant dire qu'il n'en passe plus beaucoup à quelques mètres de ce studio, hein, sous les fenêtres de RFI. À la station Javel, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici en amont, des pompes sont en action actuellement pour faire baisser le niveau de l'eau. Miguel Martins, il y a un endroit dans Paris qui est particulièrement scruté de très près en cas de montée, je vais y arriver, des eaux de la Seine. Je me noie un peu, moi aussi.
En effet, Philippe, le zouave, ne nous noyons pas. Je fais allusion là, évidemment, à la statue en pierre du pont de l'Alma. Ce soldat de la guerre de Crimée a pris l'habitude de servir de repère aux Parisiens par rapport à la montée des eaux de la Seine. Selon la tradition, lorsque ce militaire a les pieds dans l'eau, la Seine est en crue. Bien que la statue ait été déplacée lors de la reconstruction du pont en 1970, on sait que le zouave a déjà eu de l'eau jusqu'aux épaules. C'était en 1910. La Seine s'élevait alors jusqu'à plus de 8 mètres et demi de hauteur.
Alors, plus près de nous, c'était en juin 2016, il y a un an et demi de cela, hein, la Seine avait atteint 6,05 mètres et atteignit presque le nombril du zouave. Cette fois-ci, c'est un peu moins, hein, 5,84.
Voilà, là les jambes étaient bien recouvertes par les eaux de la Seine, mais le militaire, rappelant l'uniforme des soldats français d'Afrique du Nord, pouvait encore se dresser fièrement au milieu du fleuve. Une statue rappelant des faits d'armes en Crimée en 1854, et la victoire contre les Russes, et qui devient de plus en plus une attraction touristique de Paris, surtout par temps pluvieux, pour immortaliser en photo le niveau de la Seine.
Oui, des photos, que d'images, Raphaël Moran, également, hein, lors de votre couverture pour la rédaction en espagnol.
Oui, on a évidemment couvert le sujet, alors avec un diaporama, des vidéos, des ponts de la Seine qui sont presque sous l'eau. Il faut dire que le sujet intéresse énormément en Amérique latine, notre public. Nos articles sur les crues de la Seine sont plus partagé que les autres sujets. Le sujet a été aussi amplement couvert par la presse latino-américaine, la presse télé, la presse écrite, sur Internet. Les médias insistent beaucoup sur le fait que les mois les plus récents ont été les pires en termes de précipitations, hein, depuis plus d'un siècle en France.
Et puis il y a la situation au Louvre, hein, qui se trouve aussi le long de la Seine, qui intéresse, qui préoccupe.
Oui, les sous-sols du Louvre sont interdits d'accès. Une partie des œuvres ont été transportées pour être mises à l'abri, comme lors de la crue de juin 2016. D'ailleurs, il n'y a pas que le Louvre qui est menacé, vous l'avez dit, les sous-sols de RFI sont très près de la Seine, donc on surveille ça avec attention. Alors les médias latino-américains mettent aussi l'accent sur un autre aspect, un petit peu plus sensationnaliste, c'est celui du problème des rats à Paris qui pullulent autour de la Seine et qui fuient massivement au moment des inondations. La presse latino-américaine s'en donne à cœur joie avec de nombreuses photos, de vidéos, et ça n'est pas prêt de s'arrêter puisque le niveau de la Seine va encore monter apparemment ce week-end sans pour autant atteindre les niveaux records de 2016 et encore moins de 1910.
Alors c'est rare, Anya Stroganova, il en est également question en Russie, les médias en parlent.
Oui, les médias en parlent et j'ai l'impression qu'ils en parlent encore plus qu'en Amérique latine, parce que quand il s'agit de ce genre de cataclysme, il y a toujours une tendance à exagérer le phénomène. Paris s'est transformé en un lac avec des rats géants, titrait par exemple la chaîne d'État Russie 24, reconnu pour ses intonations apocalyptiques dès lors qu'il s'agit de parler de l'Europe. Paris risque de se transformer en Venise, commençait son sujet la présentatrice de la chaîne officielle Pervy Canal. Âme sensible s'abstenir, des hordes des rats fuient une quai qui disparaît sous l'eau. On évacue des habitants et des musées. C'est à peu près ainsi que les accents sont mis. Résultat, les Russes qui habitent à Paris reçoivent maintenant sans cesse des coups de fil de leurs proches qui sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de se noyer? C'est comme ça que les chaînes de télé montrent ce qui se passe à Paris. Paris.
Ouais, ça impressionne beaucoup à l'étranger, Michael Martens, notamment parce que nombre de pays connaissent des phénomènes dramatiques liés aux intempéries, mais très souvent dans des pays sous-développés.
Voilà, les moussons font souvent bien des ravages dans différentes contrées d'Asie, notamment en Afrique de l'Est aussi. Le Mozambique est un pays très touché de façon récurrente par des intempéries. Habituellement, lors de l'été mozambicain, lorsque le soleil se rapproche de l'équateur, lors du passage de l'équinoxe, le pays est abondamment inondé par des pluies de façon cyclique. Ça a été le cas en janvier, février et mars de l'an 2000, notamment, où le passage de différents cyclones a empiré la situation à une dimension jamais répertoriée jusque-là. Des cyclones formés sur l'océan Indien faisaient route vers le sud-ouest. De fortes pluies, des rafales de vent atteignant plus de 100 km/h se sont abattues sur le Mozambique. À l'époque, on a comptabilisé plus de 100 morts, 300 000 réfugiés et 1 million de déplacés.
Alors, le bilan n'est pas aussi dramatique, mais le Mozambique continue à avoir maille à partir avec ses chutes d'eau exceptionnelles.
Voilà, en ce moment même, c'était déjà le cas le week-end dernier. Le nord du pays était particulièrement touché par le mauvais temps. On avait déjà répertorié 11 décès, 15 000 maisons avaient été détruites, plus de 80 000 personnes avaient été touchées. Et même si ces caprices de la météo sont récurrents, les autorités disent manquer de 6 millions d'euros pour faire face à ces calamités naturelles.
Et du côté de la Russie, Agnès Stroganova, il y a d'importantes chutes de pluie, des inondations de manière récurrente.
Oui, ça arrive souvent. Vous imaginez que le territoire de la Russie est gigantesque, donc il y a plan de crues, inondations diverses et variées. Par exemple, en août 2017, des pluies diluviennes en Extrême-Orient russe ont provoqué des inondations dans plusieurs villages de la région. Ça a été le cas en 2015, en 2016, donc ça arrive régulièrement. À chaque fois, des centaines de kilomètres de routes sont détruits, des communications coupées, des habitants évacués, des champs agricoles inondés.
Raphaël Morane, parlez-nous des inondations dans votre zone de diffusion.
Alors, oui, bah évidemment, dans les zones tropicales en Amérique latine, il y a régulièrement des crues, des pluies diluviennes, au Paraguay notamment au moment de la saison des pluies. Au Mexique, il y a eu des inondations au mois de septembre de l'année dernière. Des inondations qui font chaque année des dizaines de morts, des milliers de sinistrés, des villages pauvres qui sont détruits. Alors c'est beaucoup plus grave que celle qu'on vit à Paris. Et pourtant, les inondations récentes à Paris attirent énormément, inquiètent énormément. Pourquoi ? Bah parce que c'est une ville mythique. Pour un continent qui reste quand même très francophile, l'Amérique latine. Du coup, les images des quais de Seine sous les eaux attirent énormément.
Voilà pour ces inondations qui durent et qui vont durer, puisque la décrue est annoncée comme très lente. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Avec la rédaction russe, revenons maintenant sur ces manifestations de l'opposition. C'était dimanche dernier, à l'appel de l'opposant Alexei Navalny. Il a été arrêté, comme plusieurs de ses supporters. Alors, pour bien comprendre, Agnès Stroganova, dites-nous d'abord le but des manifestants.
Les manifestants appelaient à boycotter l'élection présidentielle qui aura lieu le 18 mars de cette année. Les manifestations étaient interdites par le pouvoir, ce qui est souvent le cas en Russie, mais les partisans ont bravé l'interdiction, ce qu'ils font aussi souvent. Il était 4 ou 5 000 à Moscou, environ 1 500 personnes à Saint-Pétersbourg, et puis des milliers encore dans des différentes villes de Provence. Tous étaient descendus dans la rue pour dénoncer l'absence du choix lors du scrutin qui s'approche. Alexei Navalny, qui est devenu en quelques années le principal opposant à Vladimir Poutine, a été arrêté seulement quelques minutes après avoir posé ses pieds sur la rue Tverskaya où commençait la manifestation moscovite. Il a tout de suite été embarqué par les policiers. Je vous propose qu'on écoute le déroulement de son arrestation. Donc c'est Alexei Navalny qui sort de la bouche du métro et qui commence à scander « escrocs et voleurs ». Et ses participants reprennent « Vous n'avez que 5 minutes pour dégager ». Et puis tout de suite, les policiers apparaissent, l'attrapent, l'entraînent dans le fourgon de police. Les manifestants qui observent cette scène commencent à scander « La honte, la honte, la honte » et Ainsi, la manifestation continue sans son leader.
Et juste avant le début de cette manif, la tension était déjà palpable à Nien, hein, puisque la fondation de lutte contre la corruption, dirigée par Navalny, justement, a été envahie par les forces de l'ordre.
C'est ça, la police a investi les lieux, a encerclé le centre commercial où se trouvent les locaux de la fondation. Et en prévoyant cette possibilité de l'intervention policière, il y a deux proches d'Alexis Navalny, sa porte-parole et son coordinateur de campagne, qui sont partis en Vilnius, à Lituanie, où il avait organisé une retransmission en direct sur YouTube des manifestations. Et quand ils sont rentrés à Moscou, mardi, tous les deux ont été arrêtés à l'aéroport et condamnés mercredi à des peines de prison pour, je cite, « organisation d'un rassemblement interdit ». Et donc le garçon a été condamné à 8 jours de détention et la porte-parole de Navalny, elle a écopé de 5 jours de prison parce que souvent les filles sont moins punies que les garçons en Russie. C'est l'avantage d'être fille en Russie. Mais vous voyez que l'organisation d'une retransmission sur YouTube depuis l'étranger, ça se paie cher quand on soutient Alexis Navalny.
Alors il y a donc l'appel qu'il a lancé pour boycotter cette élection présidentielle. Est-ce qu'il est soutenu par le reste de l'opposition en Russie?
Pas tout à fait, parce que l'enjeu de ce scrutin pour le pouvoir russe serait en fait le taux de participation. Le gagnant, on sait très bien ce que ça sera, Vladimir Poutine, sauf énorme surprise, c'est lui qui va remporter cette élection. Mais la seule chose dont on ne peut pas être sûr à l'avance, c'est le scrutin mobilisera-t-il assez d'électeurs ? Alexei Navalny, je le rappelle, au mois de décembre, a été déclaré inéligible par la commission électorale à cause de sa condamnation pénale pour soi-disant un détournement de fonds. Donc lui-même, il ne peut pas se présenter et il appelle à boycotter le scrutin pour augmenter le taux d'abstention et ainsi montrer au pouvoir son mécontentement. Mais une partie d'opposition en Russie ne partage pas cette stratégie. Il y en a qui prônent un vote pour tout autre candidat sauf Vladimir Poutine. Et il y en a d'autres qui vont voter Ksenia Sobchak, journaliste qui est très connue en Russie et qui est la fille aussi de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, dont Vladimir Poutine était l'adjoint dans les années 90. Elle a seulement 36 ans, elle se présente comme la candidate contre tous et plusieurs experts en Russie sont persuadés que sa candidature a été approuvée par le Kremlin pour justement diviser l'opposition et donner un nouveau souffle à cette campagne en augmentant aussi le taux de participation.
Et donc on sera fixé mi-mars.
Le 18 mars.
Bien évidemment suivi par la rédaction russe à laquelle vous appartenez, Anya Stroganova, mais bien évidemment l'ensemble des rédactions de RFI. La rédaction lusophone nous emmène maintenant en Guinée-Bissau, ce pays d'Afrique de l'Ouest situé entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Il s'agit du pays d'Amilcar Cabral, le fondateur d'un mouvement de libération qui avait réussi dans les années 70 à contrôler une importante partie du territoire aux dépens des Portugais. Et cette semaine, plus de 40 ans après son indépendance, Miguel Martins, c'est pour de toute autre raison que le pays défraie la chronique.
Voilà Philippe, quelle folle semaine a vécu ce pays. Pour la comprendre, faisons un petit rappel historique sur l'origine de cette crise politique qui prend de plus en plus d'ampleur. En août 2015, le président en place limoge le premier ministre, prétextant une incompatibilité entre les deux et prétend que le chef de l'exécutif serait lié à des affaires de corruption. Celui-ci ne sera cependant jamais poursuivi par la justice. Depuis, le président a nommé 6 premiers ministres et ce en faisant fi de la victoire aux dernières élections législatives du PAIGC, le parti de Cabral. Une situation qui rend fragile le leadership du parti dont il est lui-même issu. Le PAIGC perd du coup la majorité au Parlement parce que 15 députés font dissidence et s'allient avec le PRS, principale force de l'opposition, et appuient donc de fait le chef de l'État.
Donc pour résumer cette crise politique, le Parlement est paralysé depuis 2 ans et demi, les gouvernements se succèdent et tout ça bien sûr est un casse-tête pour l'organisation générale, régionale pardon, qu'est la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest.
En effet, là après bien des menaces de sanctions contre ceux qui s'opposeraient au plan d'issue de crise validé l'année dernière à Conakry, la CEDEAO a décidé de frapper. Ce jeudi, des sanctions ont été annoncées contre des personnalités et institutions bissau-guinéennes qui empêcheraient l'application de ces accords et la nomination d'un premier ministre de consensus. La liste nominative serait imminente et les sanctions impliquent des gels de comptes bancaires ou bien des interdictions de déplacement notamment. Aujourd'hui, le chef de l'État, José M. Mario Vage s'est déplacé à Conakry pour y rencontrer Alpha Condé, le facilitateur régional. Or, dans les accords de Conakry, justement, il avait été question de nommer un premier ministre de consensus en la personne de Augusto Olivais du PAIGC.
Oui, alors le président a toujours persisté à nommer d'autres personnalités et mardi dernier, il a nommé un autre premier ministre et cela alors que la police avait empêché en même temps la tenue du congrès du parti de Cabral. Hein.
Voilà, justement Philippe. Et celui-ci a donc fini par démarrer quand même dans un établissement hôtelier de la capitale avant que le nouveau chef de l'exécutif ne fasse lever le siège la nuit dernière au siège du PAIGC et ce en présence des invités étrangers qui témoignaient du chaos du pays. Or, les analystes dénoncent là les manœuvres de diversion du président, lui qui a prétendu être le premier citoyen insatisfait de l'instabilité qui y règne. Écoutons Dotarine da Costa, sociologue bissau-guinéen.
Quand le président dit qu'il est inconformé, si de fait est inconformé, ça paralyse un pays.
Quelle est son analyse?
Il nous dit, comment peut le président se dire insatisfait de la situation et ce, alors qu'il paralyse un pays où le niveau de scolarité actuellement ne va guère au-delà de 2,9 années d'études. Un pays qui n'a pas une année scolaire complète depuis tant d'années, où l'on meurt dans les hôpitaux faute d'avoir 3 euros pour se procurer des médicaments. Il s'agit là d'un pays qui est complètement à la dérive et ce, surtout, c'est son sentiment, à cause des prises de position d'un président qui dit ne pas se satisfaire de l'état actuel des choses.
Miguel Martins de la rédaction lusophone de Radio France Internationale. Quant à la rédaction Amérique latine de RFI, cette semaine, elle a suivi ces interminables négociations entre l'Union européenne et les quatre pays du Mercosur que sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Il y a donc un nouveau cycle de tractations, sachant que les deux blocs commerciaux négocient depuis près de 18 ans un accord de libre-échange. Raphaël Moran, pourquoi les négociations sont-elles si longues et si compliquées?
Parce qu'on touche à un secteur commercial très sensible en France et en Irlande, c'est celui de la viande bovine. L'éventuel traité de libre-échange entre l'Union européenne et les quatre pays d'Amérique du Sud que vous avez cités suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les éleveurs français et irlandais surtout. Cette semaine, les ministres des quatre pays du Mercosur ont été reçus à Bruxelles. L'Europe a mis une nouvelle offre sur la table. Alors au départ, Bruxelles avait accepté d'ouvrir un peu les portes de son marché de viande de bœuf en proposant d'autoriser l'importation annuelle de 70 000 tonnes de bœuf en provenance du Mercosur. L'offre était jugée insuffisante par les pays du Mercosur qui, en échange, propose de supprimer quand même les droits de douane sur de nombreux produits européens très compétitifs comme les cosmétiques, l'automobile, le secteur laitier. Du coup, revirement cette semaine, Bruxelles a fait une offre plus généreuse, elle propose un volume d'importation de 99 000 tonnes.
Alors, il faut savoir que plusieurs pays européens craignent que ces importations déstabilisent leur filière nationale.
Oui, le chiffre qu'on vient de citer a fait bondir le lobby agro-industriel français qui craint d'être inondé de viande sud-américaine à bas prix, beaucoup plus compétitif que le bœuf français. Le FNSEA a sorti un communiqué aujourd'hui, d'ailleurs intitulé « Mercosur no pasarán ». Véridique, la FNSEA parle espagnol. On écoute Dominique Langlois, président de l'Association des professionnels de la viande, interviewé par notre collègue Patricia Lecomte. Il évoque aussi la question des normes sanitaires.
La viande bovine doit être exclue compte tenu des conséquences que cela pourrait avoir sur l'Europe et en général et la France en particulier, compte tenu des conditions de production qui ne sont absolument pas l'identique de ce que nous avons en Europe. Premier point. Sur tout ce qui est sécurité sanitaire, sur l'alimentation des animaux, sur la traçabilité, l'identification et sur les modes d'élevage qui ne sont absolument pas dans la logique et dans la demande qui est d'avoir le respect du bien-être animal. On est fidèles de plusieurs dizaines de milliers d'animaux. C'est pas le modèle qui est retenu. En tout cas, c'est pas ce qui est de nature à garantir un bien-être animal. Donc on ne peut pas d'un côté, et c'est l'incohérence que l'on soulève, prôner la souveraineté alimentaire, une agriculture saine et une alimentation saine et durable, et de l'autre accepter des quantités de viande aussi importantes de pays qui ne respectent pas ces règles.
le président de l'Association française des professionnels de la viande. Raphaël Amoran, le temps est compté maintenant.
Oui, les pays du Mercosur ont hâte de signer parce que certains comme le Brésil et l'Argentine cherchent à vraiment à ouvrir s'ouvrir aux marchés mondiaux. Mais le temps presse, il y aura bientôt des élections au Brésil et au Paraguay. Donc si l'accord n'est pas signé ce mois-ci, ce sera reporté au calendrier grec.
Merci à vous et merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.